Si j'ai annoncé cette petite causerie sur l'éducation, c'est parce que je me suis laissé dire que il y avait des familles qui ne trouvaient pas de place. Non, qui... il y a encore de la place devant. Mais... Donc des familles qui se laissaient un peu, qui se trouvaient un peu débordées par l'éducation des enfants, et que c'était là quelque chose de difficile en raison de la fatigue, en raison de la pression du monde extérieur, et ainsi de suite. Et donc, je pensais utile de rappeler quelques principes de l'éducation de façon très pratique. Il y a, ça fait maintenant 8 ans, j'avais fait une conférence sur l'éducation en général, les principes que nous donne l'Église, l'éducation... J'avais mis « Avenir des enfants et salut des parents ». Et puis une autre conférence, il y a 5 ans, sur les principes de l'Église quant à l'école catholique. La petite causerie de ce soir voudrait être beaucoup plus pratique pour savoir eh bien, comment, quels étaient les principes éducatifs qui, dans le temps, étaient un peu transmis dans les familles, de génération en génération, plus ou moins améliorés ou plus ou moins déformés. Et puis tout cela s'est perdu. Tout cela s'est perdu parce que la génération des gens adultes au moment de Vatican II, qui avaient des enfants, la génération de mes parents donc, eh bien, pour une bonne part, ont tout abandonné, les principes éducatifs, on a arrêté de transmettre. On a eu cette injustice très grande de ne pas transmettre ce qu'on a reçu. Nous avons reçu beaucoup, pas simplement dans l'ordre matériel, mais dans l'ordre spirituel, dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre social, dans l'ordre éducatif de nos parents, et nous ne pourrons jamais rendre à nos parents ce que nous leur devons. Nous ne pourrons jamais rendre à nos ancêtres ce que nous leur devons, c'est impossible. Nous sommes nés comme des débiteurs insolvables. Maintenant, les enfants naissent comme des petites merveilles dont il faut prendre les leçons, mais réellement, nous sommes nés comme des débiteurs insolvables. Nous ne pouvons pas payer la dette que nous devons, ni au bon Dieu, c'est une évidence, mais même à nos parents. Et il n'y a qu'une seule façon de payer, une façon de rendre ce qu'on a reçu, c'est de transmettre. Et les générations qui ne transmettent pas ce qu'elles ont reçu sont des générations qui sont profondément injustes. Elles ont reçu une éducation chrétienne, elles ne transmettent pas. Elles ont reçu l'enseignement de la foi, elles ne transmettent pas. Elles ont reçu des habitudes de politesse, des habitudes de civilité, elles ne transmettent pas. C'est là une injustice terrible. C'est comme quelqu'un qui, ayant reçu un patrimoine familial, eh bien, le vendrait en viager et passerait sa vie à se tourner les pouces, à ne rien faire. Et voilà, il arrêterait totalement la tradition familiale. C'est la même chose. Sauf que dans l'ordre spirituel ou dans l'ordre intellectuel, c'est infiniment plus grave parce qu'on peut toujours racheter des terres qu'on a perdues, mais ce qui n'a pas été transmis, eh bien, ça ne sera jamais transmis. Et donc, il y a un véritable déficit éducatif dû au temps moderne, dû au péché originel qui est et dû à la pression sociale. J'ai donné un petit canevas de cette conférence dans le numéro de Notre-Dame de la Sainte-Espérance de ce mois-ci, à la fin, en disant que le plus grand crime du monde, c'est celui que l'on commet chaque jour contre les enfants. Les enfants, on les prive d'une vraie famille. On les assassine dans le sein maternel. On les arrache à leur famille pour que ce soit une éducation qui ne soit plus donnée par la famille, mais par l'État. On les livre à un enseignement sans Dieu, sans vérité, sans rien. Voilà, on les introduit dans un monde où la perversité s'étale partout. On leur fournit des accès à toutes les perversions. On les prive d'un enseignement, d'une formation de l'intelligence. On les prive de la possibilité d'apprendre un métier en temps utile, c'est-à-dire quand assez tôt pour que les gens, pour que ceux qui dont les talents sont des métiers d'ordre artisanal, qu'ils les apprennent assez tôt pour voir quand on a encore de la force, de l'enthousiasme, de la docilité. Et donc on détourne les gens de la véritable noblesse de l'intelligence humaine qui est de la contemplation. La connaissance, la contemplation de la vérité. Toute notre société est une société utilitariste. Notre société est une société qui est dominée par l'argent et par ceux qui manient l'argent, évidemment. Il n'y a plus d'apprentissage de la contemplation, de l'émerveillement devant l'œuvre du bon Dieu. Le monde cache tout. Et les enfants qui naissent, eh bien, sont là. Vraiment, ils naissent privés. Ils ont déjà le péché originel. Mais on peut dire qu'il y a une sorte de deuxième péché originel, qui est le fait de l'absence de la société chrétienne, ou même de l'absence d'une société naturellement saine. Et donc, cette société moderne possède tous les leviers, toute la puissance publique, les impôts, les services sociaux, la police, la justice, les écoles, les universités, tout appartient à ce monde moderne dont l'ennemi est l'enfance. L'ennemi est l'enfance, c'est-à-dire qu'on tue à peu près un enfant sur deux, on tue à peu près un enfant sur deux, et ceux qui sont des survivants, on les considère comme des petites merveilles intouchables, on ne leur transmet rien, mais ce sont des petites merveilles intouchables dont on fait des barbares, parce que c'est cela, la définition de la barbarie. Une société barbare, c'est une société qui ne transmet pas. C'est-à-dire qu'à chaque génération, il faut reprendre à zéro. Et quand on reprend à zéro, on ne va pas très loin. Il faut tout rebâtir, il faut tout reconstruire, et nous sommes dans une société barbare. Et au milieu de cette société barbare, de ces grandes, très grandes difficultés qu'il y a dans l'éducation des enfants, eh bien, des parents se trouvent débordés et disent bah, on va essayer de sauver les meubles, d'aller au moins pire, etc. On va faire ce qu'on peut. Et l'éducation ne consiste pas à sauver les meubles. C'est comme si je vous disais que faire du vélo consiste à ne pas tomber. Mais non, ça consiste à avancer. Pour cela, il ne faut pas tomber, nous sommes d'accord. Mais ça consiste à avancer, à faire des kilomètres. C'est un moyen de locomotion et non pas un moyen d'éviter les chutes. Et donc, il faut faire infiniment plus que de sauver les meubles, parce qu'il faut faire des citoyens du ciel. Il faut faire des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire des enfants du bon Dieu. Il faut faire des éléments d'une chaîne qui doit normalement aller en montant dans l'ordre de la civilisation, dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de la culture, dans l'ordre de l'amour du bon Dieu, qui doit aller en montant. Et donc, on comprend bien ce que disent les gens quand ils disent on va essayer de sauver les meubles. Mais on voit bien que ce n'est pas là l'idéal, ce n'est pas là le but de l'éducation. Et puis, l'éducation des enfants est la fin primaire du mariage. C'est la fin primaire du mariage, la fin primaire est la procréation et l'éducation des enfants, qui sont inséparables. C'est la fin primaire du mariage, c'est-à-dire c'est une responsabilité très grande. C'est quelque chose dont le bon Dieu demandera compte, mais en même temps, c'est quelque chose qui est inclus dans les grâces du mariage. Dans les grâces du sacrement de mariage, il y a la grâce de sanctifier dans l'état de mariage. Voilà, et la grâce d'élever les enfants, et on peut et on doit toujours recourir à cette grâce initiale du mariage, le bon Dieu a promis, et qui demande les grâces nécessaires pour accomplir la vocation du mariage, eh bien, le bon Dieu donnera les grâces nécessaires. Alors, il faut donc que nous rendions compte que nous sommes dans un monde dans lequel, eh bien, les enfants, les gens sont considérés comme des bêtes, n'ayant aucune vocation éternelle, aucune destinée éternelle, aucune grandeur vraiment au-dessus de la matière, comme des bêtes. Et la tentation, peut-être, puisque le monde fait des bêtes, nous allons faire de l'angélisme. Nous allons faire de l'angélisme. Alors nous allons élever nos enfants comme des petits saints, voilà, mais surtout, on va faire de l'angélisme, il ne faut pas les punir, il ne faut pas les forcer, il faut qu'ils soient des saints, on va prier pour eux, on va les asperger d'eau bénite tous les matins, on va faire tout ce qu'on veut, mais on ne va pas leur donner une véritable éducation. Et là, il y a aussi un danger. On a entendu des gens dire... Mes enfants, je ne les frapperai jamais. Mais je veux vous dire, les enfants, ils ont apostasié. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut frapper les enfants tous les matins. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a une éducation, il y a une autorité à exercer, il y a une fermeté à exercer. Et cela, ça s'oublie beaucoup. Et alors, tout va mal. Et puis quand tout va mal, on s'exaspère, on se met en colère, on frappe... On frappe et voilà, et ça va de mal en pis. Alors, il faut donc revenir à des principes très simples de l'éducation, non pas pour résoudre tous les problèmes, non, il y aura toujours des problèmes, nous le verrons, la loi de la vie, c'est la croix. La loi de la vie, c'est la croix. La loi du mariage, c'est la croix. La loi de votre métier, c'est la croix. La loi de la vie, c'est la croix. Le monde entier nous dit la loi de la vie, c'est la chair. C'est l'exaltation de la chair, c'est la manifestation de la chair, c'est l'assouvissement de la chair. L'Évangile nous dit la loi de la vie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut s'attendre à devoir porter une croix, et l'apôtre Saint Paul dit que tous ceux qui entrent dans l'état de mariage auront à subir des tribulations, et une des grandes tribulations, c'est l'éducation des enfants. Alors, la première chose qu'il faut voir, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, et éduquer, c'est préparer l'avenir, c'est former pour l'avenir. Et l'avenir de tout homme, c'est l'éternité. Et c'est l'éternité du ciel, notre avenir réel, notre avenir premier, c'est l'éternité. Et donc l'éducation ne doit jamais perdre ça de vue. Et notre Seigneur nous le dit dans l'Évangile, pas uniquement à propos de l'éducation, mais de toute la vie. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme de réussir une éducation intellectuelle si on vient à perdre son âme? Eh bien, l'homme ne peut rien donner en échange de son âme, nous dit notre Seigneur. Et nous n'avons sur la terre qu'une seule fin, la fin surnaturelle. C'est notre unique fin qui doit illuminer, qui doit guider, qui doit ordonner toute l'œuvre éducatrice. Et il n'y a pas de plus grand bien, il n'y a pas de rempart plus nécessaire et efficace contre le monde d'avoir cela présent à l'esprit. Pourquoi ? Parce que le monde sème et récolte ici-bas. Le monde sème le désespoir. Sur la terre, il y a deux catégories de gens. Ce sont deux catégories de désespérés. Il y a les gens tranquilles, les désespérés tranquilles qui vont vers le jugement de Dieu. Repu, et puis il y a les désespérés révoltés qui vont vers le jugement dernier, le ventre vide. L'exemple dans l'histoire de la Révolution, les désespérés repu, c'est Voltaire, et les désespérés le ventre vide, c'est Rousseau. Voilà, il y a le révolutionnaire installé et le révolutionnaire qui veut s'installer à sa place, évidemment. Mais le monde ne fait que des désespérés. Et si nous voulons lutter contre l'esprit du monde, si nous voulons faire les choses tout à fait autrement que le monde, eh bien, il faut vivre d'espérance. Notre avenir, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Alors, et c'est là une chose qu'il ne faut pas oublier. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas faire d'angélisme. Pour rendre stable et persévérante cette visée de la vie éternelle, il est vital de procurer aux enfants les moyens d'un avenir terrestre équilibré, d'un avenir terrestre plaisant même, parce qu'on a besoin, Saint Thomas d'Aquin dit, on ne peut pas vivre sans un certain plaisir, et le plaisir d'une situation dans le monde, d'exercer un métier qu'on aime, et ainsi de suite. Un avenir, il faut donner aux enfants le moyen de quelque chose qui va développer les talents que le bon Dieu leur a donnés, et quelque chose qui soit utile à la société, qui travaille au bien commun de la société, qui ne soit pas simplement... Moi j'ai trouvé quelque chose, je vais devenir très riche tout seul, pour moi tout seul, en appauvrissant les autres, parce que c'est quand même la méthode la plus rapide. Mais non, c'est impossible. Et quelque chose qui soit utile. Et donc, il est très important d'assurer cette stabilité, cet aspect plaisant de l'avenir, oui, c'est indispensable, mais ça n'est jamais l'essentiel. Ça n'est jamais, jamais, jamais l'essentiel. Et il ne faut pas se tromper de finalité, parce que si on se trompe de finalité, si on se trompe de priorité, si on se trompe de souci, on peut dire, eh bien, alors on va vers des catastrophes. Et donc, c'est la première chose qu'il faut voir, c'est la finalité, la seule fin, c'est le ciel. C'est la finalité surnaturelle, nous n'en avons pas d'autre. Notre fin naturelle, elle est assumée totalement par la fin surnaturelle, et elle ne veut pas être bonne et exister en dehors de la fin surnaturelle. Eh bien, dans l'ordre de l'éducation, c'est la même chose. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Et quelqu'un qui vous dirait, j'ai raté mon éducation, voilà, mon fils a raté son bac, c'est un des seuls, ça devient quelque chose de rare dans l'humanité, comment a-t-il fait? Voilà, eh bien, mais monsieur, s'il va au ciel, parce que ce n'était pas son genre d'esprit, parce que voilà. Eh bien, s'il va au ciel, il a tout gagné. Et celui qui est sorti major de l'ENA, il va en enfer, enfin, il risque d'aller en enfer, et il aura tout perdu. Et il aura tout perdu. Le but de notre vie, c'est le ciel. Après avoir vu la finalité, il faut voir le terrain de l'éducation. Sur quoi va porter l'éducation? Quel est l'objet de l'éducation? Chaque enfant qui naît est un être nouveau, unique. Le bon Dieu a spécialement créé une âme pour lui. C'est la seule chose qui soit nouvelle dans la création terrestre. La seule chose qui soit nouvelle. Rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Il y a une chose quand même qui est créée chaque jour, ce sont les âmes des hommes qui viennent en ce monde. Et donc chaque enfant est un être nouveau, un être unique, mais il est quand même pourvu de la commune nature humaine, donc qui est à la fois spirituelle et animale. Et cette nature humaine, avec laquelle naît un enfant, c'est une nature qui est blessée. Blessée par le péché originel et désordonnée. Et cela à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'elle est incapable d'atteindre sa fin. Puisque notre fin unique est une fin surnaturelle, un homme en naissant est détourné de sa fin dernière. Il ne peut pas atteindre par le patrimoine qu'il apporte avec lui dans ce monde, il ne peut pas atteindre sa fin dernière, c'est là quelque chose d'impossible. La fin surnaturelle ne s'obtient que par la grâce de Dieu et il n'est privé de la grâce. Il n'est donc privé de fin concrète. Il n'est séparé de sa fin, révolté contre sa fin. Et comme cette séparation de la fin, cette révolte contre la fin est dans la volonté, et il naît avec ce qu'on appelle le péché originel, qui est un vrai péché qu'on n'a pas commis, mais qu'on reçoit, avec lequel on est, et on est privé de la fin. Or, dans un être, ce qui fait l'ordre, ce qui ordonne les différentes parties, ce qui hiérarchise les différentes parties, c'est la fin. Ce n'est pas uniquement dans la nature humaine, c'est dans toute chose. C'est la fin qui fait l'ordre. Et donc, nous sommes nés dans le désordre. Nous sommes nés dans le désordre. Il y a une inertie pour le bien, parce que notre volonté est entravée par des passions désordonnées. Il y a une inclination au mal. Et il y a, et ça les éducateurs ne doivent jamais l'oublier, il y a dans l'homme qui vient en ce monde une puissance de méchanceté. Pourquoi? Parce que le péché originel a été commis à l'instigation du démon. Et qu'il y a une puissance de méchanceté, je ne dis pas une méchanceté en acte, hein, attention, un petit, il est bien mignon, mais il y a une puissance de méchanceté. Et que si on laisse un enfant se développer dans l'ordre moral, dans l'ordre spirituel, sans la moindre contrainte, sans la moindre directive, sans la moindre aide, il va devenir méchant. Et il va devenir méchant. Il y a dans l'homme une puissance de méchanceté. Alors, donc, c'est dû à la domination du démon qui a été consentie par Adam. Alors, un enfant qui vient en ce monde, eh bien, ce n'est pas une petite merveille, c'est un petit barbare. C'est aussi une merveille. Rassurez-vous, je n'ai pas la haine des enfants, pas du tout. C'est un petit barbare dont il va falloir faire un citoyen du ciel. Donc, et qu'il va falloir conduire au ciel. Et c'est ça, l'aimer. Aimer, c'est vouloir le bien. Et c'est vouloir le bien. Si, quand un enfant naît, le médecin dit, votre enfant, et si je ne l'opère pas tout de suite, il va être infirme à vie. Et voilà, on va dire, ben, opérez-le tout de suite, nous ne voulons que son bien. Et c'est un réflexe naturel. Mais c'est encore bien plus vrai dans l'ordre de la finalité surnaturelle. Ce petit enfant, si on ne l'opère pas tout de suite, si on ne lui donne pas la grâce de Jésus-Christ dans le baptême, pour commencer, eh bien, il sera infirme à vie. Et donc, un enfant, c'est quelqu'un qu'il faut prendre par la main, bien tenir et conduire au ciel. Et conduire au ciel, non pas par nos propres moyens, parce que nous en sommes incapables. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu qui conduit au ciel. Et donc l'éducateur n'est qu'un auxiliaire. Et c'est quelque chose de très consolant. Parce que sinon on se trouve devant un problème qu'on est incapable de résoudre. Vraiment, déjà nous ne pouvons pas aller nous-mêmes au ciel par nos propres forces. comment emmener quelqu'un au ciel. Alors l'éducateur, il a une responsabilité très grande, il doit avoir une présence très grande, mais il n'est qu'un auxiliaire de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce, il l'a déjà acquise par le sacrement de mariage, dans le sacrement de mariage, et il va l'acquérir et continuer dans la prière et dans les autres sacrements. Mais il ne faut surtout pas dire, c'est une petite merveille, surtout, il ne faut pas le casser, c'est vrai qu'il ne faut pas le casser, mais il ne faut pas le laisser tout seul. Si je le laisse tout seul, eh bien, ça sera dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre naturel. Si je le laisse tout seul, il va mourir de faim au bout de 3 jours. Voilà, puis c'est tout. Alors que un petit veau qui naît, crac, il est debout, et il trouve le pied de sa mère, et voilà. L'enfant, il faut 20, 25, 30 ans pour l'éduquer. Mais c'est pour l'éduquer pour le ciel, mais c'est pour qu'il puisse exercer la raison, il est infiniment au-dessus de l'ordre animal. Et donc, le baptême donné au plus tôt assure cette priorité de la vie de la grâce, et assure cette priorité dans l'enfant lui-même et dans l'esprit de ses parents. La première chose que nous lui avons donnée, quasiment avant la première tétée, c'est le baptême. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet acte de foi, de présenter au baptême le plus tôt possible, c'est quelque chose qui va marquer l'esprit des parents et qui va le marquer pour la vie, pour l'éducation de leurs enfants. Si le baptême, on l'a repoussé, c'était pas si urgent que ça, il fallait d'abord que le pâtissier fasse la pièce montée, que la marraine termine son tour de France cycliste, ou je sais pas quoi. Alors, c'est que c'est pas une priorité, et ça va marquer l'éducation de l'enfant. Ça va marquer les parents qui n'ont pas cette priorité, qui, dès le départ, ne font pas les choses bien et dans l'ordre. Or, le commencement des choses et le commencement de l'éducation ont une importance très grande pour la suite. Ce qu'on commence bien, il y a 1000 fois plus de chances qu'on le finisse bien que ce qu'on commence mal. Donc le baptême doit être donné au plus tôt. Mais ce qui va se manifester en premier, c'est la vie animale. Évidemment que la vie de la raison ne va pas se manifester tout de suite, aussi c'est le cas de votre enfant. Voilà, c'est la vie animale, et donc il faut sans tarder, sans attendre la manifestation qui sera beaucoup plus tardive de la raison, il faut réprimer les passions désordonnées, parce qu'elles sont là. Les passions sont désordonnées, pourquoi ? Parce qu'il y a, là, il y a les traces du péché originel, les restes du péché originel qui demeurent après le baptême, et donc ce désordre intérieur, il est guéri fondamentalement parce que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfant est capable d'atteindre sa fin dernière. Il a un pied dans sa fin dernière, il a la vie éternelle commencée par la grâce de Jésus-Christ. Mais le baptême n'efface pas le désordre, n'efface pas cette perte de la justice originelle, et donc il y a encore ce désordre intérieur, et les passions désordonnées sont là, et elles vont très vite se manifester. Et il faut donc les réprimer sans tarder. Les réprimer à la mesure de l'enfant, évidemment. Je ne vais pas lui mettre une torgnole parce qu'il a fait un petit caprice. Non. Avec beaucoup de délicatesse, mais tout de suite, sans tarder. Ah non, mais moi j'attends qu'il comprenne. Et si vous commencez comme ça, il ne comprendra jamais. Vous le rendez déjà incapable de comprendre qu'il y a un bien, qu'il y a un mal, qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre, quelque chose qui est dans le désordre, quelque chose qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Alors si il se fait un caprice, vous donnez une petite tape sur la main, ça ne va pas le traumatiser à vie, mais il va comprendre, oui. Parce que c'est le seul langage qu'il comprend. Quand des parents veulent manifester à un enfant leur affection, ils ne vont pas lui faire une grande déclaration d'amour, mon petit, nous t'aimons, etc. L'enfant, ça lui est complètement égal, il va comprendre parce qu'on le prend dans les bras, on le berce et on l'embrasse. C'est ça qu'il comprend. Mais dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre pour aller vers le bien, c'est aussi la même chose qu'il comprend. S'il reçoit une tape, si papa fait la grosse voix, que sais-je encore, bien c'est le langage qu'il comprend, qui est encore un langage animal. Parce qu'il n'en comprend pas d'autre. Mais il le comprend, celui-là. Il le comprend à sa mesure, et donc il ne faut pas tarder. Alors il y a un aspect de dressage, quand on parle de dressage, ça fait dresser les cheveux au long de la tête. Mais non, pas un dressage animal, le sage d'un enfant du bon Dieu, de quelqu'un dans lequel la raison est présente. Et justement, il faut aider la raison à se libérer de cette pesanteur, de ce désordre. Et donc, il y a un aspect de dressage. Et ce n'est pas du tout diminuer l'enfant, que de le dire. C'est au contraire vouloir son bien. Et que si on ne le fait pas tout de suite, eh bien, 10 ans après, c'est trop tard. Et puis, si c'est l'aîné, il a donné le mauvais exemple à tout le monde, et que les parents sont au bord de la dépression nerveuse, ils font un burn-out, etc. Et voilà. Et puis c'est l'anarchie. Alors, il faut commencer tout de suite. Il faut commencer humblement. Ben oui, cet enfant que le bon Dieu m'a donné, eh bien, il faut que je commence tout de suite. Alors, voilà, je lui dis, oh, ben moi, je ne toucherai pas avant 1 an. Mais monsieur, s'il fait des caprices avant 1 an, eh bien, il ne faut pas le laisser faire. Hein? Voilà. Et s'il fera de caprices avant 1 an, il faut se demander s'il n'y a pas un problème. Mais c'est comme ça dans la nature, et on ne peut pas faire autrement. Et donc, ça demande aux parents un renoncement. Ils aimeraient bien le bisouiller toute la journée, parce qu'il ne fera aucun bien, parce qu'il donnera des joues gercées, c'est tout. Mais non, il faut tout de suite, il faut voir tout de suite que l'éducation, c'est un renoncement. C'est un renoncement, c'est quand on aime un petit enfant, c'est pas drôle de faire les gros yeux, de faire la grosse voix, de lui donner une tape, voilà, c'est pas drôle. On préfère lui dire, mon petit, t'as raison, t'es mignon, fais ce que tu veux. Mais il y a un renoncement. Et si on veut éduquer, eh bien, il faut se renoncer. Et donc, ce dressage, voilà, donc, ferme, mais parfaitement maîtrisé, pas question de colère, d'impatience, pas du tout, c'est anti-éducatif. Mais il est urgent. L'éducation, c'est une œuvre de longue haleine, donc 2, 3 décennies, mais on ne dispose que de quelques années pour la réussir. C'est-à-dire, hélas, pour la rater aussi. Et donc, c'est urgent. L'éducation doit commencer très vite. C'est pas moi qui le dis, c'est le papy XII d'Avanti Acuesta, son allocution des femmes italiennes, en disant, mais attention, dès le berceau, l'éducation commence. N'attendez pas. N'attendez pas qu'il soit devenu ingouvernable. Parce qu'à 3 ans, il sera insupportable, et à 15 ans, il vous poignardera. C'est pas compliqué. Et puis, éduquer, ça consiste à installer des vertus. Tout le monde doit acquérir des vertus, c'est-à-dire des bonnes habitudes raisonnées, des habitudes stables qui viennent de l'amour du bien. Et un enfant n'est pas capable de commencer une vie vertueuse tout seul. Il a des parents pour cela, il va falloir lui donner des bonnes habitudes de propreté, de politesse, d'exactitude. Voilà, tout de suite lui donner des bonnes habitudes, c'est le commencement des vertus. Et si les parents ne commencent pas à donner les vertus, le travail, le chantier devant lequel va se trouver l'enfant est un chantier inhumain. Les parents qui n'éduquent pas les enfants, qui ne leur donnent pas des bonnes habitudes tout de suite, c'est inhumain. Si un enfant devait se prendre en main à 7 ans, avec toutes les mauvaises habitudes qu'il peut avoir, il va succomber. Il ne pourra pas. C'est comme si on disait de commencer à apprendre à parler à 7 ans. Il ne pourrait pas. Et puis la raison ne se serait pas développée. Ce serait un enfant loup. Si on lui disait de commencer, c'est impossible, c'est inhumain. Les parents qui veulent être trop humains, ils sont inhumains. Alors il faut commencer à lui donner ses vertus. Et je vous rappelle, la vertu, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est la joie du bien. La vertu, c'est la joie, c'est de faire aimer le bien. Et quelqu'un qui fait un acte de vertu, la vertu lui fait accomplir le bien, dit saint Thomas, prompte, facile, delectabiliter. Promptement, c'est-à-dire sans retard, facilement, sans avoir des obstacles insurmontables à surmonter, et avec joie. La vertu, c'est la joie du bien. L'idée de vertu, c'est une idée de tristesse pour les gens qui ne pratiquent pas la vertu. Mais la vertu, c'est la joie du bien. Parce que nous sommes faits pour le bien. Parce que notre volonté est faite pour le bien. Parce que notre fin dernière, c'est le bien suprême qui est Dieu. Et que quand on est dans l'ordre, quand on est dans la voie de la fin, eh bien, on éprouve cette joie du bien. Et il faut apprendre à un enfant la joie du bien. Et il faut que le mal qu'il a fait, l'attriste. S'il fait une bêtise et que les parents se mettent à rire, qu'est-ce qu'il est développé, ce petit, regardez comme il est intelligent. Oh, maintenant, les enfants sont bien plus intelligents que dans le temps. Les parents sont des criminels. Il leur donne la joie du mal. Et la joie du mal, ça s'appelle un vice. Et donc, l'éducation, c'est installer des vertus, installer des embryons de vertus. Voilà. Et que petit à petit, l'enfant va prendre en main lui-même. Et l'enfant n'est pas capable de se punir lui-même. Déjà, nous ne sommes pas capables ou à peine, mais l'enfant n'est pas capable de se punir lui-même. Et pourtant, il a besoin de justice. Il a besoin de sentir que la justice est accomplie. J'ai fait une bêtise, je suis puni. C'est pas drôle sur le moment, mais voilà. Eh bien, je repars à zéro, la justice est faite, et j'ai la joie de l'ordre et la joie du bien. Et que si on ne punit pas, et un enfant, il faut le punir très promptement, si on le punit le lendemain, il a déjà complètement oublié, ça ne sert strictement à rien. Mais si on ne le punit pas, eh bien... n'accomplit pas la justice et il y a en lui un manque, pas forcément très conscient, mais un manque de justice. J'ai fait une bêtise et je ne suis pas puni. Alors est-ce que la punition va venir après, etc. C'est comme quand on roule sur la route tranquillement, qu'on voit un flash sur le bord de la route. On est là, ben, une semaine, 15 jours, on dit qu'est-ce que je vais recevoir, etc. Et tant qu'on ne sait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tiens. Voilà. Eh bien, il y a ce sentiment de justice, et pour un enfant, c'est un sentiment immédiat, la justice. Et donc, vous voyez bien que ça demande la présence, la présence de l'éducateur. Saint Jean Bosco disait, on lui demandait quelle est votre méthode, je suis présent, je suis là. C'est la présence de l'éducateur qui doit lui apprendre la présence de Dieu, qui doit être le reflet de la présence de Dieu. Mais c'est la présence de l'éducateur. Je ne dis pas une présence de l'éducateur où on s'occupe de lui 24 heures sur 24, on dit généralement c'est le défaut des parents avec leur premier enfant, ils n'ont que ça à faire, alors ils s'en occupent de là, on le bouge, on le met sur le dos, on le met sur le ventre, on le met sur le côté, on le met sur le dos, et on n'arrête pas, puis les modes changent tout le temps. Et alors, voilà, non, on est présent, ça ne veut pas dire qu'on est là à genoux devant, à son service, mon petit, que désires-tu? Non, ben, on est présent parce qu'il faut l'encourager au bien et il faut réprimer le mal. Et au départ, on a l'impression que c'est beaucoup plus réprimer le mal que d'encourager au bien. Mais parce que l'enfant naît avec une infirmité, un handicap, si vous voulez parler animal, qui est le péché originel. Et que le péché originel ne sera totalement guéri qu'à la résurrection des corps. On en a encore des traces et parfois on les a aggravées à leur vie. Donc, voilà le terrain de l'éducation. Alors ensuite, il y a les moyens de l'éducation. Évidemment que le moyen, c'est la prière, et c'est le bon exemple, évidemment. Et un éducateur doit beaucoup prier, parce qu'il doit sanctifier lui-même pour être un exemple, il doit prier pour ceux dont il a la responsabilité. Mais il y a aussi la fermeté. La fermeté, la faiblesse de l'éducateur, est un crime. La dureté de l'éducateur aussi, mais la faiblesse de l'éducateur est un crime. Je vous cite un passage que vous ne trouverez écrit nulle part. C'était le message de Mlle Lusquenet à la journée des compagnons d'itinéraire le 15 mai 1976 à Lyon. Elle ne pouvait pas venir parce que sa santé... Elle avait envoyé un message que Jean Madiran avait lu à la tribune et que j'ai pris au passage. Voilà ce qu'elle disait. S'il faut un message spécialiste de ce qui occupe toute ma vie, je dirais. Nous voulons sauver la jeunesse et pour cela faire une élite. Alors, fermeté, fermeté, force, horreur de la faiblesse, leçon magistrale. Car la plus affectueuse compréhension des jeunes cœurs, c'est l'autorité. Voilà, l'autorité, c'est l'amour de l'enfant. On a le pouvoir de lui faire du bien, de le conduire dans le bien. Et aimer, c'est vouloir le bien. C'est l'autorité. Et donc, la fermeté. Voilà, quand on a dit oui, ou quand on a dit non, eh bien c'est oui ou c'est non. Et on ne change pas, et ça ne se négocie pas à coup de sourire ou à coup de caprice. C'est oui, c'est oui, c'est non, c'est non. La fermeté. Quand on a promis quelque chose, si tu continues, je te punis, eh bien, il faut le faire. Si je dois te sortir de la chapelle, ça, c'est une fessée. Et il faut le faire. L'enfant perçoit terriblement la faiblesse de l'éducateur. Terriblement. Et il n'essaye que ça. Il essaye de voir jusqu'où il peut aller trop loin. Voilà. Alors, la fermeté, et un deuxième principe, la pauvreté. Malheur aux parents qui gâtent leurs enfants, qui ne leur refusent rien, qui satisfont les caprices, etc. Et parce que le voisin a quelque chose, il faut qu'il ait la même chose. Et parce que... Et la pauvreté est un climat de l'éducation chrétienne. La pauvreté. Ça ne veut pas dire la misère. Ça n'a pas du tout. Mais que les biens matériels ne restent qu'un instrument, ne soient pas... Et ça, c'est très important. Et je vais vous citer l'abbé Berthaud dans une lettre de septembre 1958, il dit « Un enfant n'est pas heureux si on le gâte, si on cède à ses caprices, si on lui donne raison quand il a tort. Un enfant est heureux quand il est absolument sûr qu'on l'aime, tout simplement. Mais qu'on l'aime pour lui-même, pour sa valeur infinie devant Dieu, sans défaillance, sans faiblesse, sans caprice. Car il y a aussi les caprices des éducateurs, et même des papas et des mamans. Mais avec égalité, constance d'action, patience, fermeté inlassable. » Voilà. Et la pauvreté est un élément important de l'éducation. Les enfants gâtés, pourris gâtés, comme on dit, c'est terrible. Et les enfants sentent bien quand l'abondance matérielle n'y prend pas la place de l'affection des parents. Que les parents n'ont pas d'autre moyen de leur dire qu'on t'aime, tiens un sac de bonbons, ou tiens... Voilà, je ne sais pas quoi, un nouveau jeu, trois paires de chaussures, tu vois bien combien je t'aime. C'est pas ça. Mais c'est leur donner une idée de l'amour, de l'affection qui est purement matérielle. Et quand ils seront grands, ils vont réclamer qu'on les aime. Surtout à la fin du mois, là. Mais non, et il y a une pauvreté qui est nécessaire à l'éducation. Et c'est un point extrêmement important. Et parfois, des parents se disent, mais je ne comprends pas, je l'ai éduqué... Je vais donner des bons principes, etc. Mais je ne comprends pas, il m'échappe. Etc. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de pauvreté. Alors après, il réclame son premier scooter à 14 ans, son premier je ne sais pas quoi, etc. Et puis, tout lui semble normal. J'en ai besoin, ou je manquerai le besoin, que, à quoi servent les parents ? Ben, à me l'acheter. Et puis quoi ? C'est pas encore fait. Mais vous êtes prié de vous dépêcher. Et donc, il faut... une pauvreté. Et à choisir, il faut mieux plus de pauvreté que moins. Je ne dis pas qu'il faut choisir. Mais c'est là quelque chose d'important. On peut avoir une vie dans un milieu où la vie est opulente, mais il faut apprendre aux enfants le prix des choses, il faut apprendre aux enfants qu'on n'a pas tous ses caprices, qu'on ne gaspille pas, qu'on n'achète pas des choses inutiles, qu'on n'a pas deux fois, trois fois la même chose qui ne sert à rien, etc. Et on voit bien, les parents chrétiens apprenaient aux enfants à faire l'aumône. Voilà, aller faire l'aumône. On lit ça dans la vie de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, mais tu vas donner ça au pauvre monsieur et tu lui feras un grand sourire. Ils apprenaient la pauvreté. Et non pas une abondance fictive. Et souvent, qu'on voit dans les milieux très simples, on dit, mais c'est pas possible. Je me rappelle, dans une famille... m'inviter au repas de baptême, des gens très simples, mais c'était des langoustes, des écrevisses, on ne sait rien, enfin des machins où on se casse les dents, mais qui coûtent des fortunes, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et les enfants, d'avance, les enfants, à moins que les gens soient ruinés dans le repas de baptême et qu'il n'y ait plus rien après. Mais il y a la pauvreté est un élément très important de l'éducation. Et donc voilà, pour les moyens, il y en a beaucoup d'autres, mais l'esprit donc de fermeté et de pauvreté, qui sont des esprits vraiment d'éducation. Il y a tout l'esprit chrétien à côté, la primauté de la foi, etc. Mais la fermeté et la pauvreté. Il faut aussi que les parents se rappellent que l'autorité parentale dont ils sont revêtus est un grave devoir de justice. Toute autorité est un devoir de justice. Et qui dit justice, dit préalable nécessaire à la charité. Quand j'ai une obligation de justice à l'égard de quelqu'un, eh bien je dois l'accomplir avant de prétendre lui faire une charité. Et donc, si je veux aimer un enfant, il faut d'abord que j'exerce à son égard la justice, c'est-à-dire que j'exerce l'autorité. Et que j'exerce l'autorité pour son bien, et non pas pour ma satisfaction, ou pour qu'il puisse aller se faire admirer dans les salons, etc. Non, pas du tout. Pour son bien à lui. Et qui, en même temps, qui dit justice, dit devoir de restitution, devoir de réparation. Des parents qui ont été injustes à l'égard d'un enfant en l'élevant mal, ou en l'élevant pas du tout, ils doivent réparer. Mais parfois, les réparations, ça va être des larmes de sang tout le reste de leur vie. Il y a une obligation de justice. Et on ne peut pas exercer la charité, on ne peut pas prétendre aimer si on n'accomplit pas la justice d'abord. Ça n'est pas possible. Si je vous dois de l'argent, que je vous fais des grands sourires à la Don Juan, dire oui, je vous aime bien, etc., je vous rendrai, etc., ça marche une fois, mais ça ne marche pas deux fois. Alors c'est un devoir de justice, et donc un devoir dont nous devrons rendre compte. Et puis il y a aussi une éducation de l'intelligence et de l'obéissance. D'abord, une éducation de l'intelligence. Premier principe, il ne faut jamais mentir à un enfant. Ça va de soi, je ne vous dis que des banalités, de toute façon je ne vais pas faire autre chose. Mais il ne faut jamais mentir à un enfant. Et quand un enfant pose une question indiscrète, eh bien il faut lui dire que c'est indiscret. Tu n'as pas à le savoir, il faut rabattre leur curiosité. Comme disait mon papa souvent, mais si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Voilà, pas compliqué. voilà. Et puis ça restait là. Puis je ne peux plus vous dire à propos de quoi, parce que la curiosité était cassée immédiatement. Voilà. Mais il ne faut pas mentir à un enfant. Il ne faut pas mentir. Parce que s'il voit que ses parents sont menteurs, qu'il me racontait qu'il y a un Père Noël, par exemple, ou etc., ou que c'est encore, ou que les histoires de fées, c'est des histoires vraies, ou que, eh bien, le jour où il perdra confiance dans ses parents, ça sera terrible. Il ne faut pas mentir à un enfant. Ensuite, il ne faut jamais flatter un enfant. La flatterie étant une forme de mensonge, de tromperie. Mais on peut flatter en voulant flatter, donc directement, mais il y a des flatteries indirectes, en ayant une sotte admiration de l'enfant. Oh, vous avez vu comme il est intelligent. Mais arrêtez. D'abord, il n'est pas plus qu'un autre. La preuve, c'est que c'est votre fils. Mais voilà. Ne jamais s'intéresse à l'enfant. Jésus raconte qu'elle n'a jamais eu la moindre flatterie. Que quand quelqu'un commence à dire « Ah, la gentille petite fille », ses sœurs l'emmenaient, ses parents l'emmenaient, ou plus loin. Elle n'a jamais eu la moindre flatterie. Jamais. Et il faut faire attention, regarde, oh, le petit, etc., bon, il m'a dit, il m'a dit qu'il voulait devenir prêtre, alors je ne peux plus le toucher, c'est un petit saint du bon Dieu, mais il faut lui donner deux fois plus de fessées, c'est tout. qu'il ne vienne pas un monstre, mais il ne faut pas l'admirer. Parce que même si c'est vrai, ce n'est pas lui, c'est une grâce du bon Dieu. L'action de grâce, elle doit remonter vers le bon Dieu. Et pas admirer le petit enfant. Oh, et puis le faire admirer à sa marraine, et puis à la voisine, et puis... Non. C'est criminel de flatter les enfants. Parce qu'ils s'en souviennent. Déjà, nous, quand on nous flatte, même si on est flatté par quelqu'un qu'on méprise, ça nous fait quand même quelque chose. C'est terrible, hein. Celui-là, c'est un imbécile, un crétin, il dit n'importe quoi. Mais quand il nous flatte, ça lui donne un petit air d'intelligence. C'était très difficile de résister à la flatterie, mais les enfants sont très sensibles. Mais il faut l'encourager. Il ne faut pas le rabattre. Il ne faut pas l'humilier. Pas l'humilier publiquement. Il faut l'encourager au bien. Mais pas le flatter. Oui, évidemment qu'il faut l'encourager. On a besoin de les encourager au bien. Et puis, encore une chose, il ne faut jamais... Il ne faut jamais bêtifier. Je trouve que c'est insupportable. Alors, mon petit gna-gna-gna, comment ça va? C'est insupportable, les enfants. Il faut se mettre à leur niveau, mais pas au niveau des bêtes. Voilà, évidemment. Et moi, je dirais, si vous voyez un adulte qui bêtifie avec un enfant, enlevez votre enfant, filez avec. C'est stupide. Les enfants ne sont pas des mascottes. Ce ne sont pas des caniches qu'on pomponne avec un petit peu de rose derrière. Hein. Voilà. Ce sont des enfants du bon Dieu. Enfin, bêtifier, alors que toute l'œuvre est de les élever dans l'ordre de la raison et de l'amour du bon Dieu. Et bêtifier, c'est les abaisser. Voilà. Donc, et puis, il faut donc leur faire aimer la vérité, donner l'horreur du mensonge. Et il faut démasquer leur mensonge. Il faut démasquer parce qu'ils finissent par y croire. Alors, je vais vous citer un auteur que certains prennent pour maudit, mais Maurras disait « Une erreur et un mensonge qu'on ne prend pas la peine de démasquer acquièrent peu à peu l'autorité du vrai. » Un mensonge répété, on finit même par se tromper soi-même si on fait toujours le même mensonge. Et il faut démasquer les mensonges de l'enfant. Voilà, il dit « Non, mais ça, ce n'est pas vrai. Et c'est pas bien. » Et donc, il faut faire aimer la vérité et donner l'horreur du mensonge. Un enfant, si on le laisse faire, il est menteur. Parce que son intérêt immédiat est d'échapper à la punition ou d'avoir double ration de gâteau, tout ce que vous voulez. Par faiblesse de nature, il ne voit que son intérêt immédiat. Alors c'est ça qu'il va voir. Et donc, il faut lui faire aimer la vérité. Et il faut démasquer ses mensonges. Et puis, il faut se rappeler de ce que disait saint Augustin, « Ama valde intellectum », aime beaucoup l'intelligence. Il faut faire aimer l'intelligence, non pas en faire des petits intellos à lunettes, qui parce qu'ils sont en cours Montessori, on récite par cœur la table de Mendeleïev, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais faire aimer l'intelligence. Et il faut purifier sa propre intelligence pour ne pas infuser ses défauts à ses enfants. Des parents menteurs feront des enfants menteurs, parce que les enfants s'en apercevront. Et il faut, si j'ai tendance à avoir une imagination débordante, eh bien, il faut que, pour éduquer mon enfant, je contienne mon imagination, parce que sinon, je vais communiquer ce défaut. Voilà, il faut faire attention à un enfant de ne pas lui dire plus qu'on ne sait. Quand un enfant pose une question dont on ne connaît pas la réponse, et on dit « je ne sais pas ». Et un enfant voit vite si on est en train d'affabuler, etc., ou d'inventer une nouvelle théorie pour prouver que, etc., ou quand on a lu quelque chose vaguement dans un livre quand on avait 12 ans, que va dire « je ne sais pas ». Eh bien, viens avec moi, nous allons regarder à l'endroit où nous allons trouver la réponse. Mais il faut y faire aimer l'intelligence. Voilà, il faut enlever cet amour de la singularité ou l'esprit de contradiction. Parce que tout le monde dit blanc, je vais dire noir. Ou parce que, maintenant, la vérité, c'est la vérité. L'erreur, c'est l'erreur. Il faut enlever l'avidité, surtout chez les garçons, des modes intellectuels. Et c'est vrai, puisque j'ai vu une vidéo sur YouTube qui le dit. On se moquait des paysans des années 30 qui disaient « ils y ont dit au poste », donc c'est vrai. Mais maintenant, c'est tout aussi stupide et même davantage. Il faut faire aimer la vérité. Il faut leur apprendre à distinguer la vérité de l'erreur. Et pas selon mes théories personnelles, mais en allant voir, viens avec moi, dans l'évangile, dans le catéchisme, voilà. Et c'est très important. Les enfants sont des caisses de résonance. Des caisses de résonance du bien ou du mal. De la vérité ou de l'erreur, mais ils sont des caisses de résonance. Alors, il faut cette éducation de l'intelligence. Et puis, une éducation de l'obéissance. Et ça, il faut exiger une obéissance immédiate. En fait, il faudrait ne jamais répéter un ordre. Si on est sûr qu'il a été bien entendu, évidemment, ça va de soi. Mais ne jamais répéter un ordre. C'est comme ça, point, c'est tout. Ne jamais négocier un ordre. Voilà. Jamais, c'est comme ça, et voilà. Eh bien, tu ne l'as pas fait à temps, je t'ai donné un ordre, eh bien voilà, tu es puni, c'est tout. Ah, mais j'allais le faire. Trop tard, mon ami. Trop tard, je me rappelle, le jour de ma jeunesse, mon papa m'emmenait quelque part, je ne sais pas où, il m'a dit, on part à telle heure. À telle heure, je n'y étais pas, je l'avais 2 minutes après, mon papa était parti. Voilà. Il a dit, je l'ai dit à telle heure, c'est telle heure. Quoi. Ça me marque la preuve, c'est que je m'en souviens. mais voilà, et ne pas négocier, etc. De même, Ne pas, ne jamais donner la raison d'un ordre si cette raison est réclamée pour retarder l'obéissance. Attention, les enfants ont besoin d'obéir parce qu'on obéit, parce que c'est la voix des parents, c'est la voix du bon Dieu. Mais ils ont besoin aussi, très souvent, qu'on leur donne la raison. Mais s'ils demandent la raison pour retarder, pour discuter l'ordre, alors non, tu obéis parce que tu l'as demandé. Et donc il faut discerner chez l'enfant s'il y a quelque chose de légitime parce qu'il veut faire en connaissance de cause, ou bien quelque chose d'illégitime parce qu'il veut se soustraire d'une manière ou d'une autre à l'obéissance. Et il y a un travail de discernement des parents qui certainement est difficile. Mais il y a besoin de la grâce, il y a besoin du Saint-Esprit, il y a besoin de... Voilà. Mais évidemment que pour cela, il faut agir avec prudence. Il ne faut donner que des ordres qui sont réalisables. Si on dit à un enfant pour dire, voilà, je veux que tu aies du caractère, je te donne l'ordre de monter au sommet du poirier. Et que l'enfant a peur, qu'il a le vertige, qu'il se met à pleurer, c'est parce qu'il désobéit, on lui demande quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Donc il faut un ordre qui soit motivé par le bien, qui soit proportionné, qui soit donné en temps opportun. Et ça, c'est une vertu des parents. C'est une vertu des chefs dans l'ensemble, mais des parents en particulier, parce que les parents ont en charge, pas simplement le bien commun de la famille, mais le bien particulier de chacun de leurs enfants. C'est une autorité très spéciale, ce qu'on appelle le pouvoir dominatif. Le pouvoir d'un chef d'entreprise ou d'un chef d'État, ou même du pape sur l'Église, c'est un pouvoir de type juridictionnel, où on gouverne pour le bien commun. Mais l'autorité des parents sur un enfant, comme l'autorité d'un supérieur religieux sur les religieux qu'on fait vœu d'obéissance, c'est un pouvoir de type dominatif, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir non pas seulement sur le bien commun de la communauté ou de la famille, mais sur leur bien particulier. Sur leur bien particulier. Si le gendarme au milieu du carrefour me dit stop, il a autorité, je m'arrête. S'il me dit de mettre des chaussettes rouges, c'est pas son autorité, il n'a pas en charge mon bien privé, etc. Je ne fais pas. Mais si c'est ma maman qui me le dit, je le fais. Évidemment. Et donc le pouvoir des parents est un pouvoir extrêmement grand. Et donc lorsqu'ils donnent des ordres, lorsqu'ils font la discipline, il faut qu'ils acquièrent cette habitude de le faire pour le bien et selon ce qui est raisonnable. Et ça n'est pas facile. Et ça n'est pas facile du tout. Mais pour que l'ordre soit faisable, qu'il soit bien perçu comme étant pour le bien, et qu'il ne soit pas, discuté. Alors je vais encore vous citer Maurras, excusez-moi, mais je ne suis pas maurassien du tout, et il disait ceci, « Pour le succès d'un commandement, il faut que le besoin d'y obéir ait de lui-même fait la moitié du chemin. » Il dit ça au niveau de la société. Alors, il faut adapter pour un enfant, mais déjà, il faut... Mais l'obéissance, quand on donne un ordre, il faut l'exiger absolument. Il y a, dans une lettre, Henri Charlier écrivait en 1964, ceci, « Le père abbé d'un grand monastère me disait il y a quelques années qu'il avait dû prolonger le temps de postulat des candidats à la vie monastique parce que dans les meilleures familles, les enfants ne savaient plus ce que c'était d'obéir. » Il ajoutait une chose plus grave encore, mais ça il parlait peut-être trop, que prégeant des retraites à des religieuses, il avait très souvent en confession entendu des révoltes contre le principe de l'obéissance religieuse. On se demande pourquoi on rentre au couvent alors. Mais voilà, donc déjà dans les meilleures familles, donc ça c'était dans les années 50, les enfants ne savaient plus ce que c'était d'obéir. Et voilà. Et donc il fallait allonger le postulat pour être sûr que les gens finissent par obéir. Et ça, Dominicain, c'est le. Son nom m'échappe, mais. Et qui disait dans les années 50 que chaque jeune homme qui rentre chez Dominicain comme postulant arrive avec dans ses cartons un plan pour la réforme de l'ordre dominicain. Voilà, on arrive, mais pas pour se soumettre, recevoir une tradition, entrer dans cette vie de renoncement, la vie d'obéissance. Donc, on vient pour renoncer, pour réformer, pour... Voilà. Donc, l'éducation de l'obéissance est très importante. Donner un ordre 5 fois, c'est plus exercer l'autorité. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais on voit bien que vous n'êtes pas sur le terrain, que c'est très difficile. C'est vrai, mais... Au moins, il faut voir l'idéal pour savoir ce qu'il faut faire. Mais voilà, l'obéissance, c'est l'obéissance. Alors, voyons, pour avancer un peu, les ennemis de l'éducation. Le premier ennemi de l'éducation, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui vous dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est vrai que la société est corrompue et qu'elle est corruptrice si on n'y fait pas attention. Mais l'homme ne n'est pas bon. Et il naît pécheur, il naît révolté. Et Freud, ce n'est que la décomposition avancée de Rousseau. C'est tout. Voilà. Mais donc, c'est Jean-Jacques Rousseau. Non, l'homme ne n'est pas bon, l'enfant n'est pas le maître de l'homme, l'enfant n'est pas une petite merveille. Voilà. Finalement, il a écrit l'Émile après avoir mis ses 5 enfants à l'assistance publique. Vous parlez d'un éducateur. Voilà. Deuxième ennemi, l'éducation, c'est la faiblesse, comme nous l'avons dit. La fermeté est très importante. L'enfant doit pouvoir s'appuyer, vraiment s'appuyer sur la volonté de ses parents. Pas simplement sur leur portefeuille, pas simplement, mais sur la volonté. Donc c'est la faiblesse, horreur de la faiblesse. Troisième ennemi de l'éducation, c'est la colère. C'est la colère. Parce que la colère n'est pas un mal en soi. Il paraît qu'il y a 0,0001% des colères qui sont bonnes. Mais souvent, la colère est le fruit de la négligence. On néglige, on laisse faire, on laisse aller. Là, quand on veut rattraper, c'est trop tard. Alors, on se fâche, on se met en colère, et puis on est épuisé parce que les enfants, c'est épuisant, c'est une guerre d'usure qu'ils mènent et ils gagnent parce qu'ils ils sont en forme au bout de 5 minutes de repos. Et donc, voilà. Et donc, la colère est un grand ennemi de l'éducation. Une éducation négligée passe facilement du laisser-aller à l'indifférence ou à la violence. Elle permet beaucoup, on permet beaucoup, on laisse faire, puis quand la mesure d'impatience est comble, on réagit avec violence, dépassant le raisonnable, obtenant un effet contraire à celui qu'on recherchait. L'éducateur juste se fait craindre et aimer. L'éducateur violent inspire la peur et se fait détester. Se fait détester. L'éducateur juste est donc l'image et le représentant de Dieu. Son action est le fruit de l'amour et du renoncement à soi-même. L'éducateur violent ne représente que ses propres passions et leur dérèglement. Et ça, c'est très important. Je ne dis pas que toute colère est illégitime, mais elle doit être une sainte colère, c'est-à-dire proportionnée, maîtrisée et parfaitement maîtrisée. Elle doit pouvoir s'arrêter immédiatement dès que c'est plus la peine. Ça peut être une démonstration de force, et parfois il y a des enfants qui ont besoin d'une vraie démonstration de force. Mais il faut qu'ils sentent et qu'en réalité, ce soit une œuvre de justice et non pas de colère. Et si c'est une œuvre de justice, elle a commencé bien avant que la colère ne monte. Et puis, quatrième ennemi de l'éducation, c'est les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse, beaucoup de mouvements de jeunesse, comme le scoutisme, ont été fabriqués pour les gens sans famille. Ou quasiment sans famille, des gens, des gamins, des rues, et ça fait beaucoup de bien, et ça fait énormément de bien. Mais malheureusement, quand ça a une grande tendance à supplanter, quand c'est des enfants qui ont une famille normale, et qui sont bien élevés par leurs parents, à supplanter la famille au lieu de la suppléer, au lieu de l'aider, dès que son auxiliaire. Alors, par exemple, eh bien, les enfants le dimanche, alors que le dimanche c'est le jour de la famille, c'est le jour du bon Dieu, et c'est le jour de la famille. Alors on prend les enfants, et les parents ne voient plus leurs enfants. Voilà. Et puis on leur donne des éducateurs trop jeunes. Dans la nature telle que le bon Dieu l'a faite, l'éducateur d'un enfant, eh bien, il a 25 ans de plus que lui. Et que dans les mouvements de jeunesse, l'éducateur d'un enfant, il a 6 mois de plus que lui. Et alors comment apprendre ce qu'on ne sait pas soi-même? Comment apprendre? Quelqu'un qui a 25 ans de plus, il a une certaine, pas simplement une certaine expérience, mais une certaine humilité de la vie. Les échecs, les difficultés apportent, ou devraient apporter avec eux-mêmes une certaine humilité, un apprentissage de l'humilité. Et l'enfant a besoin qu'on lui apprenne l'humilité, non pas l'humilité livresque, mais l'humilité telle qu'elle se pratique dans la vie quotidienne. Et alors, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts, parce que ce qui est fait pour des malades, ne fait pas forcément du bien des gens en bonne santé. Ce qui est fait pour des enfants malade d'éducation parce qu'ils ne sont pas éduqués, ne fait pas forcément un enfant qui est dans sa famille et qu'on retire à sa famille au moment où les parents le voient le plus. Et donc, je ne dis pas que tous sont mauvais, la question n'est pas là. Mais dire, il faut faire attention, est-ce que vraiment c'est pour m'en débarrasser ou bien parce que vraiment je vois qu'il y a un aspect qu'ils vont compenser que je ne peux pas faire. Et alors, ce sera autant que, pas plus que. Alors, si vous voulez un guide pour l'éducation, notre Seigneur Jésus-Christ nous en a laissé un dans l'Évangile. Ce sont tout simplement les 8 béatitudes. Les 8 béatitudes sont un traité d'éducation. Voilà. D'abord, programme. Premier, la pauvreté. Je vous parlais de la pauvreté tout à l'heure. Bienheureux les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Parce que leur éducation va leur mettre en main le royaume des cieux et non pas le royaume du fric. Voilà, bienheureux les pauvres en esprit, première chose de l'éducation. Ensuite, la douceur, bienheureux les doux parce qu'ils posséderont la terre. La douceur qui est à l'extérieur, ce que l'humilité est à l'intérieur. Bienheureux ceux qui pleurent, pas parce qu'ils ont reçu une fessée, mais parce qu'on apprend dans l'éducation que cette terre, elle n'est qu'une vallée de larmes, elle n'est pas la vraie vie, qu'elle est marquée par le péché et qu'il y a des croix, qu'il y a des maladies, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des contrariétés, bienheureux ceux qui pleurent. C'est prévu pour notre bien, pour nous faire grandir, pour nous faire aimer le bon Dieu. Ce n'est pas quelque chose à fuir absolument. Voilà, l'enfant se dit, voilà, j'ai mal à l'oreille, tiens, 1 ml de morphine et craque. Maintenant, bienheureux ceux qui pleurent. Ensuite, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il faut donner aux enfants le désir de la perfection. Et si on les comble de biens matériels, s'ils ont les placards remplis de jouets, de vêtements, de gâteries, eh bien, ils n'auront plus ce désir de la perfection. Il faut leur donner un idéal, voilà, un idéal pour l'amour du bon Dieu, pour le bien commun. Un idéal, c'est-à-dire le contraire de l'esprit bourgeois. Bienheureux les miséricordieux, évidemment qu'il faut apprendre à être miséricordieux, à être bon pour les pauvres, à pardonner, et ainsi de suite. Bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pacifiques. Et des familles où les enfants se disputent à coups de poing, etc. Voilà, c'est... Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Les parents pourraient à la limite organiser des bagarres pour les enfants acquérir un peu de virilité. Mais bon, je ne sais pas si ça... Mais non, ce n'est pas normal. Et bienheureux, ceux qui souffrent persécution pour la justice. Il faut apprendre aux enfants le courage, la persévérance, il ne faut pas les apprendre à être des douillets. Et vraiment, les béatitudes sont un traité d'éducation. Comment éduquer les enfants? Eh bien, j'ouvre l'évangile, Saint Matthieu, chapitre 5. Voilà, on n'allait pas prendre dans Saint-Luc, il n'y a que 4 béatitudes. Là, il y en a 8. Voilà, mais c'est vraiment, véritablement un traité d'éducation pour le ciel. Parce que c'est ça l'éducation. Pour le ciel. Et comme je vous le disais, il faut leur apprendre que la grande loi de la vie, c'est la croix. La croix, c'est la gloire pour aller au ciel. La croix, c'est la joie de la vie, de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la grande loi de la vie, c'est la croix. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? C'est la croix. Et bien, qu'est-ce que le monde essaye de placer à la place de la croix? Eh bien, c'est la chair. Alors, la croix, c'est l'amour du bon Dieu pour nous. C'est mystérieux, mais c'est à cause du péché. Et puis, l'amour de l'éducateur, eh bien, c'est la fermeté, c'est l'autorité pour le bien, de l'enfant et pour la gloire du bon Dieu. Et donc, la faiblesse, ou la démission, c'est la haine. Des parents qui disent, moi, à partir de 16 ans, je ne m'en occupe plus, il est assez grand, ou à partir de 18 ans, on dit, mais c'est la haine. Et c'est les âges où ils ont le plus besoin, ça va être l'âge de la première liberté, où ils ont besoin d'être aidés, d'être guidés, d'être conseillés, d'être parfois rappelés à l'ordre. Hein? Aimer, c'est vouloir le bien. Éduquer, c'est vouloir le bien. C'est la même chose. Mais c'est vouloir le bien de l'enfant et non pas le bien de soi-même. Et j'en resterai là. Si vous avez des questions ou des objections pour mon bien. Oui.
Donc, mis à part ce chapitre de Saint Matthieu, avez-vous un seul ouvrage sur l'éducation des enfants? Oui, si vous deviez recommander un seul ouvrage sur l'éducation des enfants, lequel serait-ce?
Ben, c'est l'Évangile. Si on doit en recommander qu'un seul, c'est réellement l'Évangile. Voilà. Bon, maintenant, il n'est pas défendu d'en avoir plusieurs. Il y a l'encyclique de Pie XI, Divini Ius Magistri, qui est une merveille. Le complément ou le rayonnement qu'a donné Pie XII dans Davanti Aquesta, où il insiste beaucoup sur l'éducation très précoce. Il insiste beaucoup aussi sur le grand malheur qui est l'impréparation des parents. Et il dit, d'ailleurs Pie XI le disait déjà, mais comment se fait-il que pour apprendre un métier, pour apprendre en fait 3 ans, 5 ans, parfois 7 ans d'études, etc. Et alors que pour exercer le métier, l'art des arts, le métier le plus important, on improvise. Voilà, on improvise comme ça, hop, hop. Il y a toujours une part d'improvisation, parce que chaque enfant est ineffable. Mais il dit, mais oui, l'éducation, ça s'apprend. Normalement, ça se reçoit de ses parents. Et puis, on voit ce qu'on peut améliorer. Personne n'a eu des parents parfaits, à part notre Seigneur. Voilà, mais il faut une tradition familiale, sinon il faut retrouver. Alors vous avez l'éducation de la pureté de Lusconnette, qui est quand même un ouvrage merveilleux, non pas parfait, parce que rien n'est parfait, mais merveilleux. Et vous avez des traités d'éducation, j'avoue que je n'en lis pas, je n'ai pas envie de les lire. Parce que c'est un peu des traités de recettes, oui.
Je me permets de mentionner celui du cardinal Antoniano, qui est cité par le pape Pie XI dans
Magistri. J'en ai bien un, mais on trouve ça en français, on le trouve difficilement.
Aux éditions de la Croix, c'est réédité.
Ah, ça, c'est réédité, oui. Oui, Pie XI aussi, plusieurs fois. Oui. Et puis, le grand livre de l'éducation, c'est la Croix de Jésus-Christ, c'est la vie et la grâce du mariage. Il y a dans le mariage les grâces pour éduquer, et puis voilà.
Et je ne sais pas si vous connaissez Saint-Charles Borromée, a écrit pour l'éducation.
C'est possible, mais j'ai un défaut très grand, c'est que je ne dis que le français, ou le latin un peu quand même, mais voilà, si c'est pas l'idée, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire. Enfin, je suppose que ça doit être assez bien. Mais réellement, si on renouvelle l'évangile en disant mais comment éduquer,